Deux textes aujourd'hui. Nous lirons d'abord dans le livre de la Genèse, au tout premier chapitre, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et nous écoutons l'évangile du jour qui est dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ta parole, notre Dieu, est source de vie et de sagesse. Transforme-nous par ta parole. Voilà, aujourd'hui, pour nous aider et favoriser notre méditation, je dirais juste un mot sur les deux lectures de ce matin, en commençant par l'évangile de Jean. Si vous êtes comme moi, l'évangile de ce matin est terriblement difficile à saisir, parce qu'au-delà de la beauté, des belles images sur le berger qui donne sa vie éternelle, qui donne la vie éternelle à ses brebis, qui entendent et qui reconnaissent la voix du berger, et que nul ne peut arracher de sa main toutes ses brebis, on se rend compte que le sens des mots comme « vie éternelle »,« écouter sa voix » ne sont pas forcément évidents. Surtout si on accepte que ces mots ne se réduisent pas à parler de la vie après la mort, ou encore à un appel lancé à écouter le pape ou quelque autre représentant du Christ sur terre. De même, quand Jésus affirme que le Père et lui, ils sont un, est-ce qu'il n'y a pas autre chose là que l'affirmation sur sa divinité? Si bien qu'on pourrait dire, ben, tant mieux pour lui, hein, pas mieux, hein, je veux dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose pour nous à recevoir, à entendre? Quelque chose qui nous concerne intimement, une parole pour nous, dans cette dernière affirmation? Une parole en tout cas qui peut questionner notre manière de comprendre, de saisir, d'interpréter notre relation à Dieu. Bref, un passage un peu compliqué. Alors déjà, entendre sa voix, j'ai voulu partir sur cette idée parce que c'était un très bon complément au sermon de dimanche dernier sur la sagesse. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les moyens de communication envahissent, et le mot est bien choisi, je trouve, envahissent nos existences. En plus des journaux, des magazines, de la radio, des télévisions, Internet s'est ajouté, pour ne pas dire imposé, à ce qui nous est transmis déjà comme information dans notre quotidien par nos groupes de parents, d'amis, de collègues de travail. Ça signifie que nous entendons beaucoup de voix qui nous indiquent ceci est important, que, ou cela est important, que nous devrions faire ceci ou cela. Jamais on n'a vu, justement, dans nos vies, une telle diversité d'informations et de voix. Pas étonnant si nous ressentons plus qu'avant une certaine confusion dans toutes ces voix. Alors, qu'est-ce qui fait en nous qu'on écoute une voix plutôt qu'une autre ? Certains d'entre vous savent peut-être que je suis venu à la foi chrétienne par les milieux charismatiques en France dans les années 80. Et il y a eu beaucoup de chemin, évidemment, depuis, théologiquement dans ma tête. Mais et je ne suis pas très renseigné sur ce que ces groupes charismatiques sont devenus aujourd'hui, en France en tout cas. Mais à l'époque, il n'était pas rare de rencontrer quelqu'un qui aurait été envoyé par un autre qui se prétendrait prophète, un ou une autre, disons, pour Et on voyait comme ça des personnes tout à fait très bien dans leur tête, mais arrêter leur travail, tout quitter, village, parents, famille, amis, et partir en mission, voilà, sur la parole d'un prophète, d'une prophète, pour s'embarquer dans des aventures tout à fait improbables. Certains d'entre eux, ça marchait pour eux, cette expérience, mais pour beaucoup, ils se retrouvaient vite sans rien, un peu désespérés, à vivre au crochet d'une église qu'ils étaient censés servir, et beaucoup ont très vite compris qu'ils avaient fait les mauvais choix à ce moment-là dans leur vie, un peu trop rapidement et surtout sans discernement. Et ils en témoignaient parfois. Le problème, c'est justement qu'ils n'avaient peut-être pas écouté le murmure de leur âme, ce murmure intérieur de leur être profond, et a fortiori le prophète en question n'en savait rien lui non plus. Quand je vois les Malgaches, là je pense à Ninlava, qui avait un peu ce rôle à Madagascar, qui a été, c'est une femme qui a eu beaucoup d'influence parce qu'elle a entraîné avec elle tout un mouvement de réveil à Madagascar au siècle dernier. Elle est morte à la fin du siècle dernier, mais j'ai rencontré beaucoup de jeunes pendant mes études de théologie qui étaient envoyés par cette prophétesse et pendant leurs études, et parfois certains d'entre eux s'y retrouvaient pas vraiment. Ils étaient partis un peu vite, mais c'est tellement difficile de faire le tri, justement, surtout quand une voie est reconnue non seulement par la communauté ecclésiale, mais en plus par tout un pays, en l'occurrence à Madagascar. C'est très compliqué de résister à une voie pareille. Et quand de jeunes musulmans, imaginez, des jeunes musulmans désespérés acceptent en toute bonne foi l'appel d'un mollah à devenir une bombe humaine dans un marché, est-ce qu'ils vont écouter la bonne voix ? On peut se dire ça, même les voix qui portent un vernis religieux, en tout cas, peuvent être très destructrices. Ainsi donc, il y a beaucoup de voix qui s'adressent à nous dans ce monde et qui nous parlent de l'extérieur, et il faut savoir faire les bons choix au milieu d'elles, surtout si nous cherchons à y repérer la voix de Dieu et la volonté divine pour nous. Et justement, au milieu de tout ça, une voix qui rejoint ce que nous sommes profondément et nous éveille à notre grandeur, eh bien voilà la voix dont parle l'Évangile de ce jour. Alors, n'allons pas quand même trop vite croire que cette voix est forcément extérieure à nous. Non, elle est d'abord enracinée au plus profond, au plus creux de notre être, et si nous ne savons pas l'écouter, nous risquons alors d'être ballottés à toutes les modes, toutes les doctrines, tous les charlatans. Vous savez, quand une mère entend la voix de son bébé, même au milieu d'une foule, elle va savoir le repérer. Mais dans le mouvement permanent des marées de nos vies, le défi est beaucoup plus grand. Moi, dans ce brouhaha de tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'une parole me rejoint et me change ? Ou que cette autre parole me touche, me déplace et m'envoie. Quelle parole fait autorité dans ma vie ? Comment avancer sereinement dans l'existence et faire les bons choix ? Pour répondre à ces bonnes questions, je sais que je vous en ai déjà parlé probablement dans le passé, mais je vous redonne un petit peu cette illustration de Bob Mumford dans son livre « La direction divine », où il parle d'un petit port en Italie. Et pour le rejoindre, pour arriver au bout de ce port, il faut d'abord naviguer dans un chenal très étroit qui est bordé de rochers, de récifs, de bancs de sable. Et beaucoup de bateaux se sont échoués même dans ce chenal qui est donc, vous l'avez compris, assez dangereux. Alors les autorités ont fini par installer trois balises surmontées de points lumineux. Et donc, quand le pilote arrive, il faut aligner les trois balises, les trois lumières, pour n'en faire plus qu'une, et à ce moment-là, le bateau sait qu'il peut rentrer safe dans le port. Si on commence à voir deux, surtout trois lumières, le pilote sait alors qu'il a dévié de son cap et qu'il court un grave danger. Et nous dirigeons nos vies de la même manière qu'un pilote dirige son bateau, et pour notre sécurité, Dieu a placé des balises pour nous aider, pour nous guider. Et pour Bob Mumford, les trois balises de la direction pour nos vies, sont d'abord la parole de Dieu, c'est-à-dire se poser la question, est-ce que ce que je vais faire, le choix que je vais prendre, est en conformité avec les valeurs de l'Évangile? Le deuxième, le Saint-Esprit, ou plutôt le témoignage intérieur. Est-ce que la décision que je vais prendre va amener en moi une paix profonde, une joie même d'avoir pris cette décision, ou est-ce qu'il y a de la résistance, est-ce qu'il y a un malaise à l'intérieur? Écoutez ça, c'est sa deuxième balise. Et la troisième, ce sont les circonstances. Est-ce qu'elles s'ajustent avec grâce devant moi ou est-ce qu'elles font plutôt résistance? Est-ce qu'elles font obstacle à mon projet? Et donc, quand ces trois balises s'alignent, on comprend que à ce moment-là, ça nous permet de faire des choix peut-être plus tranquillement, plus sereinement, et d'avancer plus en sécurité dans cette voie qui s'ouvre à nous et que nous empruntons sous les conseils de l'Esprit. C'est une méthode qui peut aider. Je vous la laisse. Une chose est sûre, lorsque nous sommes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et que nous prenons des décisions importantes pour nos vies, cette inspiration de cette voix intérieure, dans cette inspiration, on retrouve toute la joie et la paix qui sont le signe même de l'appel du bon berger. On le comprend, aucune décision ultime ne vient de l'extérieur. Ça, ce sont les circonstances qui s'agencent devant nous, mais il ne faut pas laisser les circonstances, bien sûr, diriger nos vies, diriger le cours de notre vie. En fait, notre être intérieur a son mot à dire à chaque fois que nous avons une décision à prendre. Écoutez son cœur, en somme. On pourrait le dire comme ça, en une seule phrase. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, disait Pascal. L'idée, c'est que chaque personne a un vide dans son être, dans sa vie, dans son esprit, dans son âme, qui ne peut être rempli que par Dieu. Eh bien, mon idée pour savoir où nous allons et comment fonctionner, c'est tout simplement de laisser l'esprit et la parole prendre la place de ce vide en forme de Dieu qui est en nous. S'il y a quelque chose de transcendant et d'extérieur, c'est cet autre que moi que je veux écouter de l'intérieur. Apprendre à écouter sa voix intérieure, c'est apprendre à écouter Dieu par sa parole et se laisser transformer, se laisser inspirer avec ce que l'Esprit en fait pour ma vie. Bref, écouter sa voix intérieure pour entendre Dieu. Alors sommes-nous loin de l'évangéliste Jean par ses propos qu'on peut-être on pourrait juger profanes? Eh bien, pas si sûr, parce que quand il écrit ces lignes, donc une cinquantaine d'années après la mort de Jésus et on va dire son entrée dans une autre vie, et aussi par toute son expérience où il a constamment médité sur le sens de cette relation et de cette vie avec Jésus le ressuscité, Jean découvre qu'il ne faut pas le chercher en allant là-bas, à l'extérieur de nous, car c'est au fond de nous qu'on peut trouver et qu'on peut entendre son écho, précisément dans cet espace en nous, en forme de Dieu. C'est là que s'écoute et se reconnaît la voix du bon berger. Et ce qu'il dit, c'est que c'est seulement dans la mesure où nous saurons entendre cette voix intérieure qui nous est propre et que nous, au moment où nous l'entendons, alors nous serons rendus peut-être un peu plus capables de discerner entre les bons et les mauvais bergers de notre temps, les voix à écouter et les voix juste à abandonner. L'évangéliste va un peu plus loin en devenant profondément nous-mêmes, dit-il, avec toutes les caractéristiques de notre histoire personnelle, notre visage se met à luire, à ressembler à celui de Jésus, à briller de la même lumière, de la même intensité peut-être. Voilà le mystère qu'il nous révèle, devenir nous-mêmes, c'est en même temps donner un peu plus de place à Dieu dans notre monde. En sommes-nous seulement conscients? Alors Dieu a créé l'homme à son image. Et depuis, l'homme le lui a bien rendu, disait Voltaire, peut-être, de Maupassant. Et c'est si vrai, hein, nous sommes si prompts à nous construire un Dieu qui nous ressemble, un Dieu qui ressemble aux humains, un Dieu qui veut être adoré, un Dieu qui se choque un peu de tout, un Dieu qui se fâche, qui se met en colère, qui veut se venger, qui punit, qui fait mourir. Le problème avec un Dieu despote, vengeur, sans cesse jaloux, en colère, punissant, oui, le problème, c'est quand l'humanité se croit obligée d'adorer ce Dieu-là. Parce que tôt ou tard, elle va finir par lui ressembler, ou vouloir être son bras sur terre. Et voilà, et ça, on l'a vu dans notre histoire, même notre histoire chrétienne, hélas, avec tous ces massacres, l'Inquisition, les apartheids, les bûchers et autres tortures qu'on a pu commettre au nom de ce Dieu-là. Mais non, et c'est là tout le message et la force du témoignage du Christ, si nous devons nous faire un Dieu en forme d'humain, ou plutôt si nous devons nous inspirer de l'homme pour penser Dieu, on va le dire comme ça, alors mes amis, au moins que ce soit l'homme dans ce qu'il a de meilleur, de ce qu'il a de plus doux, de ce qu'il a de plus compatissant, de ce qu'il a de plus créatif, de plus raisonnable, dans ce qu'il a de plus vivifiant, ce qu'il a de plus aimant. Et ce serait bien la moindre des politesses, hein, si nous devions vraiment faire de Dieu un Dieu qui nous ressemble. Il faut adorer un Dieu qui inspire l'humanité à toujours travailler à son meilleur. Et c'est pour ça qu'il nous faut imaginer la divinité comme essence d'amour, d'ouverture, d'universalité, de progrès, pour devenir, nous aussi, d'ailleurs, un petit peu plus participant à cet esprit-là. Peut-être c'est là que le Père et moi, nous sommes un, cette invitation à produire ça en nous. Comme des Martin Luther King, comme des Albert Schweitzer, comme des Mère Teresa ou des Sœurs Emmanuel, enfin bref, des gens qui ont su être le reflet d'un Dieu bon. Et Dieu nous rappelle bien que nous sommes chacun uniques, qu'il parle à chacun de manière unique dans notre fort intérieur, il parle à chacun vraiment avec ce qu'il a, qui lui appartient totalement, avec ses mots à lui, dans sa langue maternelle, on pourrait presque dire, et il le fait selon ce que nous sommes et tel que nous sommes. À l'écoute de cette voix sur notre chemin, notre responsabilité, c'est donc de nous poser les bonnes questions, de savoir écouter et de faire les bons choix. Savoir quel Dieu doit influencer ma vie, quelle est sa voix, quel est le Dieu que j'ai envie de refléter dans ma vie, quel est le Dieu que j'ai envie de partager peut-être aussi aux autres. C'est bien les questions que nous laisse l'Évangile ce matin et qui pourraient encore se résumer en une seule. Quelle voix est-ce que j'écouterai pour façonner ma vie et devenir toujours un peu plus librement, un peu plus authentiquement moi-même ?